enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Cette étude de Derek Prince nous montre comment être délivré de la malédiction de la pauvreté et pourquoi Dieu donne l'abondance. Voici la première partie qui concerne les promesses de Dieu à notre égard.
La clé de l'abondance de Dieu. Les promesses. En commençant ce matin, j'aimerais vous soumettre quelques termes de base ou concepts qui vont être utilisés à ce propos. Ils ne sont pas tous synonymes. Leur sens a différentes facettes. Je vais prendre d'abord le positif et ensuite le négatif. Il y a environ quatre groupes principaux de mots du côté positif. Riche et richesse, fortune et fortuné, prospère, prospérité. Et puis, abondé, abondant, abondance. Laissez-moi vous répéter cela afin que vous puissiez bien les assimiler. Riche et richesse, prospère, prospérité, fortune et fortuné, abondé, abondant, abondance. Il y a une distinction importante. Quand nous utilisons les mots riche et richesse, fortune et fortuné, nous parlons normalement de quelqu'un qui a de grands biens financiers et matériels. Mais quand nous parlons de prospère et d'abondé, ou de mots dérivés, il ne s'agit pas nécessairement d'une personne qui a beaucoup d'argent à la banque, ou de grands biens matériels. Il y a donc une différence. En fait, la promesse de Dieu est tournée davantage vers l'abondance plutôt que vers la richesse. Nous devrions parler de cela maintenant. L'abondance, c'est en fait avoir tout ce dont on a besoin et encore un peu plus pour donner aux autres. C'est le principe de l'abondance, je le redis. Cela signifie que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas de besoin dans votre vie, aucun manque, et vous avez plus que ce dont vous avez besoin, ce qui vous permet de donner aux autres. Le mot « prospère » en particulier, tel qu'il est utilisé dans la Bible, évoque la réussite. Cela ne veut pas forcément dire qu'on a des biens matériels ou des richesses très importantes. L'un des exemples les plus intéressants se trouve dans 3 Jean 1, verset 2. Jean dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Je pense que c'est une merveilleuse affirmation de la volonté de Dieu pour le croyant engagé. Gaius, à qui cette épître était écrite, était un chrétien exemplaire. Si vous l'étudiez, vous verrez qu'il marchait dans toute la vérité que Dieu lui avait donnée. L'apôtre Jean, en écrivant cela, était le porte-parole du Saint-Esprit et dit à Gaius « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Les trois domaines sont inclus, spirituel, physique et matériel. La volonté de Dieu est bonne dans chacun d'entre eux. Le mot traduit par « prospère » signifie ici, littéralement, « avoir un voyage prospère ou réussi ». Dans Romains 1, Paul prie afin d'avoir un voyage prospère, par la volonté de Dieu, pour aller vers les chrétiens de Rome. C'est le même mot. Je crois que Dieu a répondu à cette prière, et vous pouvez voir la réponse décrite dans Actes 27 et 28. Mais Paul n'a pas voyagé en première classe. Il a voyagé prisonnier et enchaîné. Il a essuyé une énorme tempête, comme si tout le bateau et tous ceux qui étaient dedans allaient périr. Ils ont survécu à la tempête, personne n'a perdu la vie. Ils sont arrivés dans les îles et ils ont eu ce que nous appelons un réveil spirituel. Et quand ils sont partis, les habitants de l'île leur ont donné tout ce dont ils avaient besoin pour le reste de leur voyage. Il a eu un voyage prospère, mais ce n'était pas exactement un voyage confortable. et il n'a pas voyagé en première classe. Ainsi, je veux que vous compreniez que lorsque nous utilisons les mots « prospère » et « abondé », nous ne parlons pas nécessairement de personnes que le monde qualifierait de très riches. Rapidement, pour poser les bases, prenons ces quatre concepts différents, et je pense que maintenant vous y verrez une certaine différence. Riche et richesse, ils sont à peu près synonymes. Prospère, prospérité, c'est faire les choses avec succès, en réussissant. L'opposé, en un sens, c'est l'échec, le naufrage. Abonder, abondant, abondance, signifie que vous ne vivez pas dans le manque ou la frustration. Il se peut que vous n'ayez pas beaucoup. Il se peut que vous n'ayez plus rien à la banque. Je dis toujours à propos de Jésus qu'il n'avait pas un gros compte en banque. Les disciples et lui avaient quand même un sac dans lequel ils mettaient les offrandes. Mais je décris la façon dont Jésus vivait comme ceci. Il utilisait la carte de crédit de son père et elle était toujours honorée. En fait, les hommes très riches n'ont pas besoin de beaucoup de liquidités. Je suis allé une fois au restaurant avec l'un d'entre eux. Il m'a offert un merveilleux repas et il n'a même pas sorti sa carte de crédit. Il a juste signé la note. C'était suffisant. On savait que ce serait pris en compte. Alors arrêtez de croire qu'il faut avoir beaucoup d'argent à la banque. Ce n'est pas essentiellement ce dont nous parlons. Regardons les mots contraires qui sont assez évidents, je crois. Ceux que j'ai notés sont pauvre et pauvreté, disette, besoin, manque, échec ou faillite. Je pense qu'il est assez facile de constater comment ils sont en relation avec les termes que nous venons de voir. Je vais y revenir. Pauvre et pauvreté, disette, besoin, manque, faillite et échec. Je vais vous énoncer cinq principes de base. Le premier, tout ce que Dieu a en réserve pour nous se trouve dans ses promesses. J'aimerais que vous regardiez dans 2 Pierre 1. Nous allons lire les versets 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sans nous arrêter longtemps là-dessus, remarquez que la vie chrétienne est une vie de multiplication. Elle n'est pas statique. Il ne s'agit pas de maintenir ce que vous avez, ni même simplement d'ajouter. C'est une multiplication. Tout passe par la connaissance de Dieu et de Jésus. Tout ce dont nous pouvons avoir besoin nous est donné à travers Dieu et Jésus. Nous n'avons besoin d'aucune autre source d'approvisionnement que Dieu et Jésus. Le verset 3 est une affirmation étonnante. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Arrêtons-nous ici et regardons le verbe. Il est au passé. C'est très solennel dans le langage grec. Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous pourrons avoir besoin pour ce temps et pour l'éternité, dans tous les domaines de notre vie, pour la vie et la piété. Dieu nous l'a déjà donné, je voudrais insister là-dessus. Très souvent, nous prions sur la base d'un malentendu. Nous demandons à Dieu de nous donner quelque chose qu'il nous a déjà donné. Il n'est pas facile pour Dieu de répondre à de telles prières, car en y répondant, il entretiendrait le malentendu. Parfois, nous devons ajuster notre pensée afin de faire la prière à laquelle Dieu peut répondre. La seconde partie du verset dit « Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Et remarquez encore une fois que tout est inclus dans la connaissance de Christ. Le grec dit « Qui nous a appelés à sa propre gloire et vertu. » Ce n'est pas notre gloire, c'est la sienne. Ce n'est pas notre vertu, c'est la sienne. Ainsi, Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous allons avoir besoin, et tout est dans la connaissance de Jésus. Le mot grec que peut se traduire « reconnaissance ». Cela signifie à la fois connaître et reconnaître. Ce n'est pas simplement que nous connaissons intellectuellement des choses au sujet de Jésus, cela signifie que nous le connaissons effectivement dans nos vies. Le verset 4 contient la partie essentielle de cette révélation. Lesquels nous assurent de sa part les plus belles et les plus précieuses promesses. Voici la clé. Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous allons avoir besoin. Où se trouve tout cela? Dans ses promesses. Dans les promesses de sa parole. Je présente cela ainsi. Tout ce que Dieu veut nous donner réside dans ses promesses. Je crois que si vous pouvez comprendre cela et le garder, cela peut avoir des conséquences énormes sur votre vie chrétienne. J'aimerais que vous disiez cela avec moi. Tout ce que Dieu veut nous donner se trouve dans ses promesses. Redisons-le. Tout ce que Dieu veut nous donner se trouve dans ses promesses. Maintenant, en regardant la fin du verset 4, nous en arrivons à une autre affirmation étonnante. Il est dit « Afin que par elles, les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. » Je me demande si nous comprenons bien actuellement ce langage. Je ne sais pas comment le dire autrement. Cela signifie que nous devenons participants à la propre nature divine. Nous recevons la nature exacte de Dieu. Nous devenons divins. Vous devez vous dire que c'est risqué de dire cela. Et c'est vrai. Mais alors qu'on le défiait d'être le Fils de Dieu, Jésus dans Jean 10, 34 a cité le psaume 82. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, Dieu parle en fait aux hommes, et il leur dit, « J'ai dit que vous étiez tous des fils du Très-Haut, des dieux. » Jésus nous donne le commentaire divin. Quelle en était la base? C'est parce que la parole de Dieu est arrivée à eux. Il vous a appelé des dieux, vous, à qui la parole de Dieu a été annoncée, et l'Écriture ne peut mentir. Ainsi, parce que la parole de Dieu vient jusqu'à nous à travers les promesses de Dieu, nous devenons participants à la nature de Dieu. Nous pouvons devenir divins. Je réalise que cette affirmation peut être mal employée, mais je crois que la façon dont je l'ai présentée est en fait une interprétation exacte de ce que l'Écriture enseigne. Puis, la partie finale de cette révélation. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comme nous devenons participants de la nature divine, nous sommes délivrés de la corruption qui existe dans le monde. La nature divine et la corruption sont incompatibles. La nature divine est incorruptible, mais tout ce qui est dans le monde est corruptible. J'aimerais revenir là-dessus encore une fois, et je vous invite à le méditer, parce que la portée de cette révélation est telle qu'on ne peut pas l'intégrer en quelques minutes. Cela vous demande d'exposer toute votre intelligence et tout votre être à cette vérité et de vraiment la vivre. Revenons au verset 3. La puissance divine de Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avions besoin pour ce temps et pour l'éternité. Tout est inclus dans le fait de connaître et de reconnaître Jésus. La providence de Dieu est dans ses promesses. En nous appropriant ses promesses, nous devenons participants de la nature divine. Et, en devenant participants de la nature divine, nous sommes délivrés de la corruption qui existe dans le monde. Je crois que je vais redire cela, peut-être pas exactement de la même façon, mais je vais faire de mon mieux. Pourquoi ne le dirions-nous pas ensemble? Ou plutôt, dites-le après moi. Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour ce temps et pour l'éternité. Tout est inclus dans le fait de connaître Jésus. La providence de Dieu est dans ses promesses. En nous appropriant ses promesses, nous devenons participants de cette nature. Et en devenant participants de cette nature, nous échappons à la corruption de ce monde. Bien, après cela, je crois que la seule chose à faire est de louer le Seigneur. Principe numéro 1, la provision. Soit la providence ou ce que Dieu désire nous accorder, et dans ses promesses. Principe numéro 2, les promesses sont notre héritage. C'est ce à quoi Dieu nous amène. Il existe un parallèle très simple entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, par un leader nommé Josué, Dieu a conduit son peuple dans la terre promise. Dans le Nouveau Testament, par un leader nommé Jésus, qui en hébreu est le même nom que Josué, Dieu amène son peuple dans la terre des promesses. Ancienne alliance, une terre promise. Nouvelle alliance, une terre de promesses. Regardons un instant dans Josué 1 et voyons les conditions de base que Dieu avait données à Josué. Josué 1, en commençant au verset 20. L'Éternel dit « Moïse, mon serviteur, est mort. » Je crois que cela est plein de sens. Avant d'entrer dans quelque chose de nouveau, il faut toujours faire mourir quelque chose de vieux. D'une certaine façon, je vois la vie spirituelle comme les saisons de l'année. Il y a un cycle de saisons continuelles. Nous avons le printemps, l'été avec son abondance, puis nous avons l'automne, un temps de flétrissure. L'hiver est un temps de mort. Puis le printemps, le temps du renouveau et de la résurrection. Je trouve que c'est un principe qui agit dans nos vies. Dieu ne bénit que ce qui est mort et ressuscité. Alors que je raisonnais avec le Seigneur à ce propos, parce que cela ne collait pas avec ma volonté personnelle et mon désir à un moment particulier, j'ai dit « Seigneur, comment se fait-il que tu ne puisses bénir que celui que tu ressuscites ?» J'ai senti que j'avais la réponse. Parce que quand Dieu ressuscite quelque chose, il ne ressuscite que ce qu'il veut. Nous lui avons tout abandonné et nous lui avons donné le droit de ne ressusciter que ce qu'il veut. Ainsi, en un sens, il fallait que Moïse meure, ainsi que toute sa génération, afin que le nouveau dessein de Dieu puisse s'accomplir à travers Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Quelqu'un a dit que Dieu enterre ses serviteurs et continue son travail. Et Dieu a apporté un grand soin à l'ensevelissement de Moïse. C'est significatif. Je veux dire qu'il l'a fait en personne. C'est remarquable. Dieu est aussi une personne réellement compréhensive. Il n'a pas demandé aux enfants d'Israël d'agir comme s'ils n'avaient rien à faire de Moïse. Il leur a donné 30 jours de deuil pour pleurer Moïse et pour l'oublier. Puis, il leur a dit « Maintenant, soyez prêts, nous allons partir. » Je trouve que c'est vrai. Je rencontre des gens qui ne savent pas exprimer leur souffrance, qui les refoulent, et celles-ci ressortent tôt ou tard. Je trouve très malsain d'adopter cette attitude moderne qui consiste à dire que ça ne nous fait rien. Vous savez, quelqu'un est mort, mais nous continuons. Cela ne marche pas. Il vaut mieux dire « Je suis touché, ça me fait très mal, mais nous allons le surmonter. » Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. En lisant ce verset ce matin, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu. Dieu n'allait pas partir en laissant quelqu'un derrière. Nous serions très contents aujourd'hui, pour la plupart, si nous arrivions à faire 90% des gens. Dieu dit que tout le monde doit y aller. Je crois vraiment que c'est ainsi que Dieu voit notre situation, aujourd'hui. Tout le monde doit partir. Et toi, et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Remarquez les temps. Dieu dit ici, je leur donne le pays. C'est au présent. À cet instant, je leur donne le pays. Puis il dit au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Une fois que Dieu l'a donné, c'est donné. Mais à partir de là, en anglais, c'est au passé. Je vous l'ai donné. Et à partir de ce moment, comme je le comprends, le pays appartenait légalement aux enfants d'Israël. Nous devons donc bien faire la différence entre le légal et l'expérimental. Souvent, quand vous parlez d'être baptisé du Saint-Esprit ou de recevoir un don de Dieu, ou quelque autre provision de Dieu, vous parlez à quelqu'un qui a une culture fondamentaliste et qui dit « J'ai tout reçu quand j'ai cru, je n'ai plus besoin de rien. » On peut répondre à cela « Si vous avez tout eu, montrez-le-moi. » Cependant, dans un certain sens, c'est correct. Légalement, lorsque vous venez à Christ, vous devenez héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tout l'héritage est légalement à vous. Il y a une grande différence entre le légal et l'expérimental. Je plaisante un peu au sujet de cette attitude en disant que si Josué et les enfants d'Israël avaient été fondamentalistes, ils auraient pu se mettre en ligne sur le bord est du Jourdain, croiser les bras, regarder de l'autre côté du fleuve et dire « Tout est à nous !» C'était légalement correct, mais expérimentalement incorrect. S'ils avaient été pentecôtistes, c'est juste une sorte de parabole, vous voyez. Ils auraient traversé le Jourdain, ils se seraient mis en ligne sur la rive ouest, auraient croisé les bras et auraient dit « Tout est à nous !» Mais ils auraient juste fait un pas de plus, c'est tout. Ce qui est intéressant à propos des enfants d'Israël, entrant dans la terre promise, c'est que Dieu les y a conduits par un miracle. Il leur a donné leur première victoire sur Jéricho par un miracle. Après cela, ils ont dû se battre pour tout ce qu'ils ont eu. N'espérez pas rentrer dans votre héritage sans conflit. La façon dont ils l'ont eu, c'était « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. » Ainsi, légalement, tout est à eux. Expérimentalement, il vous faut y entrer et proclamer ce que Dieu vous a donné. Mettez-y les pieds. Je crois que c'est une image vivante de proclamation. Dieu m'a promis cela et je proclame cette promesse. Le deuxième principe, c'est « Les promesses sont notre héritage ». Troisième principe, « Les promesses sont l'expression de la volonté de Dieu ». Dieu n'a jamais promis quelque chose qui n'était pas selon sa volonté. C'est très important de comprendre cela. Supposez que j'ai un jeune fils et que je lui dise d'aller nettoyer le garage et de le ranger. Fais du bon travail, je te donnerai 20 francs. Alors mon fils y va, balaye le garage, fait du bon travail, tout est beau. Il revient et dit à son père, « Papa, je veux mes 20 francs. » Que penseriez-vous de moi si je disais, « Je n'ai jamais eu l'intention de te donner 20 francs, ce n'était vraiment pas ma volonté. » Vous me considéreriez comme un mauvais père, comme quelqu'un de peu fiable et sur lequel on ne peut pas compter. Il en va de même avec les promesses de Dieu. Nous ne pouvons pas venir devant Dieu en ayant rempli les conditions et nous attendre à ce que Dieu nous dise. Je n'avais pas vraiment l'intention de te le donner. Je voulais juste te duper. Il est évident que Dieu n'agit pas ainsi. Les promesses de Dieu sont l'expression de ce qu'il veut faire. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, nous prions avec confiance. Regardons 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est en Dieu. Le mot traduit par « assurance » signifie « liberté de parole ». C'était un mot très important dans le milieu politique grec. L'une des choses pour lesquelles ils se sont battus en démocratie, c'était la liberté de parole. Ce mot signifie à la base « liberté de parole ». C'est la liberté absolue que nous avons de dire ce que nous croyons de Dieu. C'est l'assurance que nous avons en lui. Je fais remarquer cela parce que je pense que l'assurance doit s'exprimer dans ce que nous disons. Si vous ne le dites pas, vous ne l'avez pas. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Notez encore une fois que nous savons que quand nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous savons que nous l'avons. Non que nous allons l'avoir, mais nous l'avons. Marc chapitre 11, verset 24, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Quand ? Je ne vous ai pas entendu. Oui, quand nous prions, et vous l'aurez. Une chose est au présent, l'autre au futur. Le fait de recevoir est au présent, et l'expérience concrète de tenir ce que nous avons reçu prend souvent place plus tard. Mais si nous ne l'obtenons pas, ou si nous ne le recevons pas maintenant, nous ne l'aurons jamais. L'une des grandes clés pour demander avec succès, c'est de recevoir quand nous prions. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez. Croyez que vous le recevez et cela vous sera donné. Et ici, Jean dit que, quoi que nous demandions selon sa volonté, nous savons qu'il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous obtenons de lui ce que nous demandons. L'une des tactiques favorites du diable consiste à nous conduire à remettre à plus tard la chose que nous devons nous approprier maintenant. Dans mon livre « Vivre par la foi », j'illustre cela par une histoire qui a toujours été très parlante pour moi. Quand j'avais environ 20 ans et que j'étais étudiant à Cambridge, parce que j'étudiais la philosophie et la culture grecque, l'université m'avait donné une bourse pour aller en Grèce afin d'aller voir les monuments, les statues et toutes ces choses. J'y suis allé avec un ami, fils du président de l'université de Cambridge. Nous logions dans un hôtel à Athènes. Au bout de 3 jours, j'en avais assez, des ruines, des antiquités, de tout le reste. J'ai décidé que ça me suffisait et nous avons pris alors du bon temps en Grèce. Tous les jours, quand nous sortions de notre hôtel, il y avait un petit groupe de cireurs de chaussures sur le trottoir, nous attendant pour cirer nos chaussures. Si vous n'êtes jamais allé dans le Moyen-Orient ou dans les pays méditerranéens, vous ne comprenez pas cela. Dans ces pays, les cireurs sont déterminés. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont vous cirer les chaussures, que vous le vouliez ou non. C'est encore pire au Caire. Alors ils vous disent « Je fais briller vos chaussures » ou « Je cire vos chaussures » ou autre chose. Nous disions « Non » en grec, tout en secouant la tête en arrière en même temps, comme il se doit. Mais ils ciraient nos chaussures quand même, ça ne marchait pas. Un matin, mon ami a eu une idée géniale. Quand nous sommes sortis de l'hôtel, et que les cireurs de chaussures se sont approchés de nous, et nous ont demandé « Je cire vos chaussures ?» Il a répondu « Demain !» Et cela les a déstabilisés. Nous sommes sortis sans que nos chaussures soient cirées. Je pense que très souvent, quand vous êtes sur le point de vous approprier les bénédictions de Dieu, le diable vous dit « Demain !» Vous hésitez un moment et vous ne vous l'appropriez pas. L'Écriture dit ce qu'est le temps approprié. C'est maintenant. On dit « Aujourd'hui est le temps acceptable ». Il est plus exact de dire « Maintenant ». Maintenant est le temps acceptable. Maintenant est le jour du salut. Dieu vit maintenant dans l'éternité. Quand vous avez besoin de lui, ce n'est pas hier, ni demain. Il ne dit pas « J'étais » ni « Je serai », mais il dit toujours « Je suis ». Le troisième principe, c'est que les promesses de Dieu sont l'expression de sa volonté. Quatrième principe, toutes les promesses de Dieu nous sont maintenant accessibles à travers Christ. Regardez 2 Corinthiens 1, 20. Il y a de nombreuses façons de traduire ce verset, et les différentes traductions suivent différentes voies. Je ne veux pas entrer dans les différentes variantes possibles. 2 Corinthiens 1, 20 est un verset clé, en particulier quand vous rencontrez des dispensationalistes, c'est-à-dire des gens qui disent que ceci était pour hier, que cela est pour demain, et qu'entre-temps, contentons-nous des miettes. La version seconde traduit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, qu'est le oui, C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. J'ai regardé dans le grec ce matin et on pourrait traduire à peu près comme cela. Dieu a donné toutes les promesses pour être oui, et il a accompli toutes les promesses pour être Amen en Jésus. Il y a beaucoup de façons différentes de traduire ce verset, et différentes traductions suivent différentes voies, mais il y a certains mots-clés qui ne changent pas. Tout d'abord, toutes les promesses. Non pas certaines, mais toutes. Ensuite, sont, non pas étaient ou seront. Et enfin, en lui. Il n'y a qu'un canal par lequel Dieu rend ses promesses disponibles pour nous. Un seul, c'est Jésus. Puis il est dit à la gloire de Dieu. Chaque promesse que nous nous approprions dans la volonté de Dieu glorifie Dieu. Il a si bien prévu ses promesses que quand nous nous les approprions, le résultat, c'est qu'il est glorifié. Voyons Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a différentes manières de traduire cela. Mais en principe, je comprends que cela veut dire que par notre péché, nous avons volé Dieu de sa gloire. Comment pouvons-nous réparer? Croyant à ses promesses. Romains 4 dit d'Abraham, « Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Comment rendre à Dieu la gloire que nos péchés lui ont volée? En croyant à ses promesses. Quand Abraham a cru aux promesses de Dieu, il a rendu gloire à Dieu. Ainsi, toutes les promesses que Dieu nous a données sont maintenant disponibles pour nous en Christ, et elles sont pour la gloire de Dieu. Ce que j'aime, ce sont les deux petits mots « pour nous ». Ce n'est pas pour les apôtres, ni pour l'Église primitive, ni pour des chrétiens particuliers, des évangélistes ou des missionnaires. Ce « nous » signifie « vous » et « moi ». Ainsi, toutes les promesses de Dieu sont disponibles pour vous et moi, à travers la foi en Christ. Vous n'avez pas besoin de toutes les promesses de Dieu maintenant. Vous ne pouvez pas réclamer toutes les promesses de Dieu tout à la fois au même moment. Mais toute promesse dont vous avez besoin et qui correspond à votre situation dans l'immédiat. J'aimerais que vous répétiez cela après moi. Toute promesse qui correspond à notre situation et à notre besoin est pour nous maintenant. Encore, toute promesse qui correspond à notre situation et à notre besoin est pour nous maintenant. C'est le quatrième principe. Toutes les promesses de Dieu nous sont dès maintenant accessibles. Le cinquième principe, c'est que l'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais du fait que nous remplissons les conditions de Dieu. C'est très important. Quand Dieu nous donne une promesse, elle n'est pas limitée à une série de circonstances particulières. Ce n'est pas forcément facile pour Dieu de faire ce qu'il a promis de faire. Et l'un des grands pièges, c'est de dire, lorsque nous sommes confrontés à une promesse de Dieu, « Oui, je comprends cela, mais dans cette situation précise, c'est trop demandé. » Alors notre foi vacille. La vérité, c'est que la promesse de Dieu ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Cela ne fait pas de différence. Vous pouvez avoir 100 ans, votre femme 90, mais si Dieu dit que vous allez avoir un fils, vous aurez un fils. Cela ne dépend en rien de ce qui vous entoure ou de ce qui est en vous. Ça n'a rien de physique, rien de temporel, rien de ce temps présent ne peut changer les promesses éternelles de Dieu. C'est la leçon. C'est pour cela que Dieu permet si souvent que des hommes de foi se retrouvent dans des situations impossibles. Il veut faire comprendre clairement qu'en aucun cas, ses promesses ne dépendent d'une série de circonstances favorables. Ainsi, en général, il permet que les circonstances deviennent les plus défavorables possibles. Prenons par exemple Élie, qui voulait que le feu descende. Alors, il a abondamment arrosé le sacrifice par 3 fois, il a laissé l'eau remplir le caniveau, et il a dit « Voyons ce que Dieu est capable de faire ». Quand le feu est venu, il a enflammé l'eau, la poussière, le bois, le sacrifice. Le feu de Dieu n'a pas plus de problème à prendre dans un fossé rempli d'eau que quand il est à sec. Cela ne fait aucune différence pour lui. L'exemple le plus remarquable est peut-être la façon dont Dieu a pourvu pour Israël au désert. Durant 40 ans, il a nourri, habillé, pourvu, guidé quelques 3 millions de personnes, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants, du bétail, tout cela dans un désert complètement vide dans lequel il n'y avait ni eau ni nourriture. Il n'y avait rien. Dieu est comme venu pour dire « Rendez la situation difficile et je vous montrerai ce que je peux faire. » En fait, il a rendu tout très difficile. Et c'est lui qui a tout arrangé. Il est très important de comprendre que vous ne devez pas détourner votre attention de la promesse pour vous fixer sur la situation. Sinon, c'est alors que vous commencerez à couler. Je vais vous lire les 5 principes pour que vous les ayez bien en tête, puis nous continuerons. Les 5 principes sont les suivants. 1. Tout ce que Dieu a prévu pour nous se trouve dans ses promesses. 2. Les promesses sont notre héritage. 3. Les promesses de Dieu sont l'expression de sa volonté. 4. Toutes les promesses de Dieu sont maintenant disponibles pour nous à travers Christ. 5. L'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais du fait que nous remplissons les conditions de Dieu. J'aimerais considérer 2 promesses particulières de Dieu qui sont la base de tout ce dont nous venons de parler. Elles se trouvent toutes deux dans les psaumes. La première se trouve dans le psaume 34, versets 10 et 11. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il y a une promesse similaire dans le psaume 84, verset 12. Gardez votre Bible ouverte au psaume 34, parce que vous aurez un petit test dans une minute. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Remarquez l'affirmation claire à la fin du psaume 34, verset 11. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. À la fin du psaume 84, verset 12, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Avant de nous plonger dans la proclamation des promesses, faisons ce qui est logique et examinons les conditions. C'est là où beaucoup s'égarent. Ils disent « Oh, c'est une belle promesse, je la veux !» Mais ils ne s'arrêtent pas pour examiner les conditions. La plupart des promesses divines sont conditionnelles. Il dit « Si vous faites ceci, je ferai cela. » Il y a quelques promesses sans condition. Acte 2:17. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vois cela comme une promesse divine inconditionnelle à un certain moment. Ces promesses de restauration d'Israël sont inconditionnelles. Gloire à Dieu. Parce que si l'Église ou Israël devait se qualifier, cela n'arriverait jamais. Il y a des choses pour lesquelles Dieu dit « Je le ferai sans condition quand cela me conviendra. » Mais la plupart d'entre elles sont conditionnelles. Maintenant, un petit exercice d'analyse. Nous trouvons dans ces 3 versets, psaume 34, 10, 11 et psaume 84, 12, 3 conditions. Ces promesses ne sont que pour ceux qui remplissent les conditions, qui ont 3 qualifications. J'aimerais les regarder un moment, et voyons si vous pouvez trouver ces 3 conditions. Nous devons craindre l'Éternel, chercher l'Éternel et marcher dans la droiture. Nous devons craindre l'Éternel, chercher l'Éternel et marcher dans la droiture. Si nous remplissons ces 3 conditions, alors, l'Écriture dit que Dieu ne nous privera d'aucun bien. N'est-ce pas extraordinaire? Encore une chose que vous devez voir. Et ici, vous devez utiliser votre esprit logique il y a encore un point. Quand nous disons que Dieu ne nous prive d'aucun bien, nous devons considérer toute l'implication du mot « bien ». Je suggère qu'avant de nous précipiter en disant « c'est pour moi » ou « pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait ?», nous nous posions deux questions. Premièrement, la chose est-elle bonne en elle-même ? Ou, philosophiquement parlant, absolument bonne ? D'accord ? C'est invariable. Une chose qui est absolument bonne est toujours bonne. La deuxième chose que nous devons nous demander, c'est si la chose est bonne pour nous dans cette situation particulière. Ici, c'est la variable. Une chose qui est absolument bonne en elle-même peut ne pas être toujours bonne pour nous dans une situation donnée. Vous verrez, si vous ne l'avez pas encore découvert, que quand Dieu s'occupe de nous, il ne fait pas que distribuer l'absolument bon. Il détermine si c'est bon pour nous dans notre situation particulière. Parfois, il nous prive de l'absolument bon parce que cela ne serait pas avantageux pour nous dans notre situation particulière. Combien d'entre nous ont déjà découvert cela ? Prenons un exemple. Le père d'un jeune homme, qui est à l'âge de passer son permis, le père aimerait lui acheter une belle voiture de sport. C'est en soi, disons, une bonne chose. Mais le garçon est indiscipliné, présomptueux, il n'en fait qu'à sa tête. Le père sait que s'il donne à son fils cette voiture, à cette époque précise de sa vie, il pourrait se tuer. Alors il ne la lui donne pas. C'est un exemple un peu terre-à-terre, mais vous découvrirez que nous pouvons nous trouver dans une situation où nous demandons à Dieu quelque chose de bon. Il ne nous dit pas que cela n'est pas bon, mais que ce n'est pas bon pour nous maintenant, à la lumière de notre caractère, de notre situation, de notre faiblesse, de nos problèmes, de nos incompréhensions. Vous savez, quand je considère toutes mes années de marche avec le Seigneur, je le remercie pour les prières auxquelles il a répondu, mais aussi de tout mon cœur pour celles auxquelles il n'a pas répondu. Avez-vous la même expérience ? Quand je pense où je pourrais être si Dieu avait répondu à certaines de mes prières, je dis merci Seigneur, parce que tu as été assez sage pour ne pas me donner ce que je t'ai demandé. Non pas parce que Dieu nous prive de bien, il ne nous prive jamais de bien quand ils sont bons pour nous. Mais beaucoup de choses qui sont absolument bonnes peuvent ne pas être bonnes pour nous, dans notre situation particulière. Je pense que si vous le comprenez, cela résout beaucoup de problèmes liés aux prières non exaucées. Ce ne sont pas exactement des prières non exaucées, mais tout simplement Dieu répond de façon autre que celle que nous attendions. Beaucoup de gens disent que certaines personnes ne réalisent pas qu'un non est une réponse. Maintenant, nous devons nous interroger sur le sujet que nous traitons. Les richesses, la prospérité, l'abondance, tout cela est-il bon ? Est-ce absolument bon ? Je crois qu'il est important de nous poser cette question. Il existe une sorte de pensée religieuse très courante, peut-être plus en Europe qu'en Amérique, mais certainement en Europe, selon laquelle tout ce qui est bon est sûrement mauvais. Vous savez, présenté ainsi, plus le médicament est amer, mieux il agit. Je suis passé par beaucoup de luttes personnelles quand le Seigneur m'a sauvé et baptisé de son Saint-Esprit pour sortir du milieu dans lequel j'avais grandi. On y pensait spécialement que si vous vouliez être chrétien, il fallait vous préparer à être misérable. Je me souviens avoir entendu Pat Boone donnant une fois son témoignage, et il disait qu'en tant que lycéen, il était arrivé à la conclusion que s'il voulait devenir un chrétien engagé, cela signifierait 70 ans de misère et le ciel à la fin. Il n'était pas du tout certain que le ciel méritait 70 ans de misère. Bon, vous pouvez en rire. Ce n'est peut-être pas aussi vrai pour tous les chrétiens américains. Mais c'est vraiment une attitude très commune chez les chrétiens d'Europe. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a peu de chrétiens en Europe. Je crois que moins de 5% des Allemands de l'Ouest vont à l'église. Moins de 3% en Angleterre. Et c'est en partie la cause et l'effet. Qui veut aller dans un endroit qui vous rend malheureux ? Je pense qu'il y a assez de misère sans avoir besoin de courir après. Je ne veux en aucun cas être sarcastique ou négatif, mais il y a quelques années, plusieurs d'entre nous sont allés faire une tournée en Italie, et nous sommes allés à Assise, la ville de Saint-François. J'ai toujours eu une grande admiration pour Saint-François, mais franchement, à la fin de cette tournée, j'ai dû faire une exception pour certaines choses qu'il avait dites. Pourtant, je pense que Saint-François a influencé plus que tout autre la vie de nombreux chrétiens. Je vous donne un exemple du genre de choses que je n'ai pas pu accepter. Il appelait son corps un âne, et en un sens, il le maltraitait délibérément. Mais je vois que la Bible appelle mon corps le temple du Saint-Esprit. C'est un concept très différent. Puis il appelle la mort sa sœur. Je vois dans la Bible, la mort est appelée notre dernière ennemie. Mais je ne veux pas que la mort fasse partie de ma famille, et je ne suis ni sarcastique ni cynique en disant cela. Il voulait aussi être marié à la pauvreté. Je voudrais vous demander ce matin, la pauvreté est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Les richesses sont-elles bonnes ou mauvaises? Je ne veux pas de réponse émotionnelle, mais une réponse claire, logique et biblique. En ce qui me concerne, je ne veux pas être marié à quelque chose de mauvais. En fait, je veux me dissocier de tout ce qui est mauvais. Ma théorie, c'est que les richesses ou la richesse sont essentiellement bonnes, absolument bonnes. D'accord? Je le redis encore, richesses ou la richesse sont essentiellement bonnes, absolument bonnes. Il y a de multiples passages bibliques que nous pourrions regarder, mais je me contenterai d'en citer quelques-uns. Le premier se trouve dans Apocalypse 5, 12. C'est la voix des anges, des créatures vivantes, des rachetés et des saints dans la gloire. Ce qu'ils disent est certainement vrai. Cela n'a pas besoin d'être corrigé ou révisé. Ils disent à haute voix, « L'agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ, est digne de recevoir. » Et ils énumèrent sept choses. Sept, je crois, c'est le chiffre de la perfection. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Ma conviction, c'est que chacune de ces sept choses est essentiellement bonne. Elles appartiennent par un droit éternel au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième mentionnée, c'est la richesse. Regardons les autres. La puissance, la force, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange. La richesse est en bonne compagnie. Qu'en pensez-vous? Ce sont toutes d'excellentes choses. De notre côté, presque toutes peuvent être mal utilisées. Bien entendu, la puissance peut être mal utilisée, et certains en abusent. La force, les richesses, la sagesse. Je crois que Salomon est l'exemple de l'homme qui avait une sagesse extraordinaire et qui l'a mal employée. Il a fini idolâtre. Le fait qu'une chose soit absolument bonne en elle-même ne signifie pas qu'on ne peut ni mal l'utiliser, ni en abuser. Mais nous serions stupides de refuser la chose parce qu'il est possible de mal l'utiliser. C'est l'un des pièges les plus fréquents de Satan. Par exemple, j'ai travaillé avec une organisation missionnaire pentecôtiste en Afrique de l'Est pendant 5 ans. Après presque 1 an, ma femme et moi avons réalisé qu'ils n'exerçaient pratiquement jamais aucun don de l'Esprit. Nous leur avons demandé « Pourquoi n'avez-vous aucun don de l'Esprit ?» Ils nous ont répondu « Oh, au Canada, ils ont été mal utilisés. » Eh bien, vous voyez, ce n'est pas logique. S'ils ont été mal utilisés, est-ce une raison pour ne pas les utiliser? Si le diable peut nous empêcher ainsi d'utiliser les bonnes choses, alors il ne restera plus rien de bon parce qu'il trouvera toujours des gens pour mal employer les bonnes choses. Vous trouverez beaucoup de chrétiens qui sont influencés à un tel point qu'ils ne s'approprient plus ce qui est bon et ce qui leur appartient parce que quelqu'un l'a mal utilisé. Peu m'importe si le monde entier utilise mal les richesses. Si elles sont bonnes, je les veux. De même pour la sagesse, la puissance, la force, la gloire ou la louange. Lisons ce verset, verset 12. Quelle que soit votre version, je suis sûr qu'elle ne peut pas être différente. l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Quand je prononce ces paroles à haute voix, je me sens bien. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement quelque chose de mauvais dans toutes ces choses. Nous allons maintenant regarder à un autre fait. Lisons 1 Chronique 29, 12. David prie l'Éternel et il dit très simplement « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. » C'est un autre principe de base. Quelle est la source suprême des richesses et de la gloire? La réponse, c'est Dieu lui-même. Dieu est la source suprême des richesses et de la gloire. Répétez-le avec moi. Dieu est la source suprême des richesses et de la gloire. Il y a beaucoup de passages dans le livre des Chroniques qui confirment cela, mais nous n'allons pas les regarder. Voyons plutôt Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, les richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Qui nous donne la force pour acquérir des richesses? Dieu, c'est juste. Beaucoup d'hommes utilisent mal cette force, mais elle vient de Dieu. Pourquoi Dieu la donne-t-il à son peuple? C'est très intéressant. Afin d'établir son alliance. Cela fait partie de l'alliance avec son peuple. Dieu est celui qui nous donne la force pour acquérir les richesses. Quand je vois des gens qui deviennent riches, je vois que cela ne dépend pas de l'éducation. Le saviez-vous? Beaucoup d'hommes ayant fait des études n'y arrivent pas, tandis que d'autres, qui ne savent même pas épeler leur nom correctement, deviennent très riches. Il y avait un homme en Angleterre interviewé pour un journal. C'est une petite illustration. Il ne savait ni lire ni écrire. Il s'était présenté pour un travail de concierge et on lui avait dit qu'il faisait l'affaire. Quand on lui a demandé de signer la demande, il a répondu qu'il ne savait pas signer. Alors on lui a dit qu'il ne pouvait pas obtenir ce travail. Comme il avait été refusé comme concierge, il a commencé à vendre des cigares et il est devenu millionnaire. Alors l'homme qui l'interrogeait lui dit « N'est-ce pas remarquable? Vous ne savez même pas signer votre nom et vous êtes devenu millionnaire. Pensez à ce que vous seriez devenu si vous aviez su signer. » Et il a répondu « Je serais devenu concierge. » Si vous pensez à des gens que vous connaissez, vous verrez que cela n'a pas de rapport avec les études. Ce sont les gens auxquels on s'attend le moins qui deviennent riches. Cela se passe partout, et aussi en Amérique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de principe de base. Je crois que vous pouvez les voir. En fait, nous allons regarder les principes, mais néanmoins, cette capacité ne peut s'expliquer simplement en termes naturels. Ce que je veux dire aussi, et nous sommes toujours dans le livre du Deutéronome, nous irons au chapitre 28. C'est que l'obéissance à Dieu amène la prospérité et l'abondance. Pourquoi ne le disons-nous pas tout en cherchant? L'obéissance à Dieu amène la prospérité et l'abondance. Regardons ce que Dieu dit dans Deutéronome 28. Ce chapitre, comme beaucoup le savent, est divisé en deux parties. La première, qui est plus courte, ce sont les bénédictions qui accompagnent l'obéissance. La deuxième, qui est plus longue, ce sont les malédictions qui accompagnent la désobéissance à Dieu. Regardons certaines des bénédictions très rapidement. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je vous fais remarquer que dans ce verset se trouve vraiment la condition de base pour appartenir au peuple de Dieu. Si vous écoutez attentivement la voix de Dieu. Je crois que si vous parcourez la parole, vous trouverez que la condition de base simple pour appartenir au peuple de Dieu consiste à écouter la voix de Dieu. Regardez Jérémie 7, 22-23, un instant. Dieu parle à Israël de la rédemption de l'Égypte. Il dit « Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. » Dieu n'a pas délivré Israël de l'Égypte sur la base de ses holocaustes et de ses sacrifices. C'est un fait historique intéressant. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Je crois que c'est la façon la plus courte de résumer les conditions de Dieu pour faire partie de son peuple. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Dans Jean 10, 27, c'est le même principe qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » C'est tout ce dont vous avez besoin au départ pour appartenir à Jésus-Christ, pour être l'une de ses brebis. Vous entendez sa voix et vous le suivez. J'aimerais que vous compreniez cela parce que c'est un principe qui se trouve dans toute l'Écriture. Et la clé, c'est entendre et obéir à la voix de Dieu. Beaucoup de fondamentalistes interprètent cela comme si Jésus avait dit « Mes brebis lisent la Bible et elles me suivent ». Mais ce n'est pas cela. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Savez-vous qu'il est possible de lire la Bible sans entendre la voix du Seigneur ? Il est aussi parfois possible d'entendre la voix du Seigneur sans lire la Bible. Quelle est la condition de base ? Entendre la voix du Seigneur. Et en particulier, si vous étudiez les conditions pour la guérison, et je les ai étudiées quand j'étais malade à l'hôpital, j'ai découvert que pratiquement chaque promesse de guérison était liée à la façon d'écouter. Revenons à Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Hébreu dit « si vous écoutez en écoutant ». Savez-vous ce que cela signifie ? Écoutez les deux oreilles. Dieu m'a montré cela quand j'étais malade à l'hôpital et que je cherchais la guérison. J'ai dit « que signifie écouter en écoutant ?» Il m'a dit « tu as une oreille droite et une oreille gauche. Pour écouter en écoutant, il faut m'écouter avec l'oreille droite et l'oreille gauche. » Alors, je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes, elles écoutaient Dieu de l'oreille droite et le diable de l'oreille gauche. Quel était le résultat ? La confusion, parce qu'ils ont deux choses différentes venant de deux sources différentes qui se rencontrent en eux. Puis Dieu dit au verset 2 « Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Vous savez, c'est merveilleux. Quand les bénédictions de Dieu nous atteignent, qu'en pensez-vous ? Certains courent après, mais je préfère que ce soit les bénédictions qui me courent après. Je vous montrerai plus tard que c'est vraiment l'une des clés. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Chaque voyage au supermarché sera une bénédiction. Verset 8. L'Éternel ordonnera d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Vous ne ferez jamais rien qui ne soit béni. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Vous avez bien lu cela attentivement. Aucun domaine de votre vie n'est exclu de la bénédiction de Dieu. Et encore une confirmation, regardez Deutéronome 29, 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Réussir dans tout ce que nous faisons ? Cela ne laisse aucune place à l'échec, à la frustration, à la défaite, à rien d'autre que la réussite. Regardez maintenant l'opposé, les malédictions liées à la désobéissance. Deutéronome 28, verset 20, mais d'abord le verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est le point de départ, loin de Dieu, ne pas obéir. J'ose suggérer que si vous observez l'histoire des hommes ou des tribus, des nations qui se sont éloignées de Dieu, vous constaterez que cela commence toujours comme ça, quand on cesse de l'écouter. Verset 15, dernière partie. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront au partage. Regardons le verset 29. C'est juste une partie des malédictions. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. De quoi s'agit-il ici? D'une malédiction. Le fait de ne pas prospérer est une malédiction. Voulez-vous le dire avec moi? Le fait de ne pas prospérer est une malédiction. Lisons Deutéronome 28, 47 et 48, en nous rappelant qu'il s'agit toujours des malédictions. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Notez s'il vous plaît que c'est la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? Que nous servions l'Éternel avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. Et l'alternative est douloureuse. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Si l'Éternel envoie vos ennemis contre vous, vous n'aurez pas le choix, vous les servirez. Quand Judas s'est détourné de Dieu, Dieu leur a dit « Vous allez vous mettre sous le joug du roi de Babylone, vous n'avez pas le choix ». Ils ont répondu « Il n'en sera pas ainsi ». Mais Dieu a dit « Si, il en sera ainsi ». J'ai vu des chrétiens pécher, se rebeller contre Dieu. Dieu a amené leurs ennemis contre eux et ils ont dû les servir. Il n'y a pas d'alternative. Si Dieu dit qu'il en est ainsi, il en est ainsi. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Regardez un moment cette liste. La faim, la soif, la nudité, la pénurie de toutes choses. Pas de nourriture, pas de boisson, pas de vêtements, rien. Résumez cela en un mot, pauvreté. Je dirais même la pauvreté absolue, totale. La pauvreté totale est une malédiction. C'est tout ce que nous verrons pour aujourd'hui.
Pour tout renseignement ou pour obtenir le catalogue des livres et cassettes actuellement disponibles et pour recevoir gratuitement les lettres d'enseignement trimestrielles, contactez-nous à DPM France, boîte postale 31, 34210, Olonzac. Téléphone 04 68 91 38 72. À bientôt.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.